dans le micro par contre. 89.
Oh, laisse tomber gros.
Là franchement il aurait eu pour au moins un quart d'heure.
Pourquoi? Attends, déjà le joueur il est, c'est genre un truc improbable ou...
C'est gros club.
Mais c'est pas un grand joueur alors.
Non.
C'est quoi, c'est Marseille?
Non.
C'est Lyon? Paris?
Paris.
Et tu m'as dit quoi, 89? Oh la vache. Un attaquant ou pas? Calderaro?
Exactement.
Oh putain je l'ai, bravo.
C'est fort, bravo.
Voilà frérot. C'est ma génération.
Oh, c'est très fort.
2 heures pile poil. Merci beaucoup. Bravo Bachir. Merci Bachir. Merci Vincent. Merci, merci Yacine. Merci Pedro. Merci Raphaël. Merci d'être venu les mecs. Hein. Merci beaucoup. Bravo. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Beaucoup d'amour. On sera là pendant l'Euro normalement avec la Libre Antenne, avec Thibaut et Oussem. On va tourner, on va alterner.
Reviens pour le Portugal.
Ah bah viens pour le Portugal. T'es bienvenu. Vincent.
Reviens pour le Maroc ou l'Algérie.
Tu peux venir.
Pour l'Euro.
Là de toute façon ça va défiler. T'inquiète. Hein, et on sera là.
La Copa América.
On sera là aussi si tu veux. Bien sûr.
Du coup c'est quoi ces photos?
Ça c'est pour Nico.
Alors en fait Pedro il a fait un livre sur les anciens élèves du lycée Inter à Saint-Germain-en-Laye. Et moi j'étais dans la fille de Rail par exemple, dans la classe de la fille de Rail.
Non, on ne savait pas.
Ouais, les confessions à 2h
confessions.
Rail, c'est une connerie, ok. Écoute pas ce que j'ai dit. En fait sa fille était dans ma classe, c'était ma meilleure pote. Et dans ce bahut là. Et donc, en fait, Pedro, il a retrouvé des anciens élèves et il a fait des photos. Donc, je suis en photo dans ce livre. Il me l'a ramené. Voilà, donc c'est un best-seller, bien sûr. Donc, ça cartonne. Et puis,
voilà. Il y a deux exemplaires.
Et donc, je suis là, voilà. Tout le monde m'a revenu ou
pas. Ça a changé, quand même.
T'as vu comme quoi une barbe, ça change un homme.
Les progrès de la médecine.
C'est fou ou pas? Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci, Pedro, pour le livre. Voilà.
Plaisir.
Voilà, merci beaucoup. À très vite. Vous prenez soin de vous. Merci, Tim à la Real. Merci, Najib, encore une fois. Bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
L'After. La Libre Antenne. Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à demain.
La matinale week-end sur RMC avec VVF. VVF, des vacances sport et nature et de belles rencontres pour partager bien plus que des vacances. VVF, tes vacances en famille. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui notre trio Joël Dagossé, Richard Consigny, Antoine Diers. Parlons des bénévoles des Jeux Olympiques. Bénévoles ou salariés? On a du mal à s'y retrouver là.
RMC, les grandes gueules.
Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver.
Les Toulousains de Zebda. Oui, je disais bénévole ou salarié. Bénévole ou pseudo-salarié. Dans tous les cas, ils sont 45 000 motivés à avoir dit « on s'engage pour les Jeux Olympiques ».
Oui, alors il s'agissait tout simplement de répondre à une demande du comité olympique pour une durée de 6 semaines, sans condition de nationalité. Il était demandé simplement de parler français ou anglais et de disposer d'au moins 10 jours à l'été 2024, 45 000 volontaires, 5 000 pour la mairie de Paris, pour des missions d'accueil, de logistique ou de ramassage de balles également, des bénévoles recrutés dans les fédérations, et qui fait dire à certains que c'est une quand même ce sont des gens qui vont travailler gratuitement. Alors on leur fait miroiter le fait qu'ils vont travailler pour un événement exceptionnel, que c'est formidable, et on peut le comprendre, hein, ça doit être sympa de bosser pour les JO parce que c'est une fois dans une vie, mais c'est aussi l'occasion pour quand même le comité olympique de faire des économies, puisqu'il y a un budget quand même qui a déjà largement dépassé d'ailleurs, mais qui est quand même serré. Et donc là, on embauche des gens qu'on ne payera pas, qui seront nourris peut-être, pas forcément blanchis d'ailleurs, il faut qu'ils se débrouillent pour se loger. Est-ce que c'est du salariat déguisé,
Joël?
Bah, je sais pas, c'est le principe du bénévolat. Enfin, c'est toujours du travail, le bénévolat, en fait. Moi, j'ai été bénévole, bah, je travaillais. Et sauf que tu choisis de donner ton temps, parfois aussi, j'étais bénévole dans une association pour jeunes, on faisait des sorties, bah, je payais de ma poche les transports, etc. Donc, Ben, pour moi,
là, c'est les frais d'hébergement sont à la charge des bénévoles, par exemple.
Oui, alors la seule chose où je, quand même, j'aurais pu faire un petit effort, c'est l'hébergement. Paris, ça coûte extrêmement cher. En plus, les prix vont augmenter, j'imagine, là, avec les JO. Donc, ils auraient pu faire un minimum. Alors, je dis pas 45 000 places, mais en tout cas, ils auraient pu libérer, je sais pas, au moins la moitié. La mairie de Paris aurait pu faire un effort pour libérer au moins quelques places.
Un repas par
notamment
jour.
Pour ceux qui viennent de province. Peut-être pas les Parisiens ou les, de la région parisienne, mais ceux qui viennent de province. Mais sinon, je veux dire, je vois rien. Vraiment de choquant, parce qu'en fait, dans les métiers, j'ai vu, on dit, il y a des statisticiens, des choses qui auraient pu être des vrais boulots, mais les gens pensent que bénévole, c'est juste distribuer de la soupe dans les, au Resto du Cœur. Non, bénévole, ça, tu peux donner de ton temps, des fois, pour être trésorier dans une association.
C'est une entreprise, quand même, il y a beaucoup d'argent privé, c'est pas tout à fait la même chose.
Bah oui, mais on a déjà dépassé le budget. Enfin,
le Resto du Cœur, tu travailles pour les plus pauvres, là, c'est pas le cas.
Oui, mais t'as des... alors ils savaient à quoi ils s'engageaient. Ils l'ont dit. Vous n'allez pas être hébergé, n'allez pas être payé. Donc les gens le font et c'est le principe du bénévolat. Donc je vois pas le problème.
Oui. Antoine, je pense que tout le sujet, c'est que sont devenus les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est encore une grande fête du sport ou comme dans un club, on a des bénévoles qui viennent donner de leur temps, etc. Ou est-ce qu'on a basculé dans quelque chose de commercial? Qui serait un truc c'est où des grandes boîtes gagnent de l'argent. Moi, je pense que ça doit rester dans le premier esprit que je décrivais, un esprit sportif où il y a des bénévoles, comme dans tous les clubs de France. Et donc, moi, ça ne me choque pas qu'ils ne soient pas payés, ils sont venus volontairement, etc. En revanche, je pressens quand même qu'à la fin, il y a des boîtes privées qui vont se faire un paquet de pognon sur cette histoire, qu'il y a beaucoup d'argent public qui aura été englouti et que dans ce cas-là, c'est peut-être compliqué de faire travailler des bénévoles si c'est du business. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir, c'est est-ce que c'est une fête du sport ou est-ce que c'est une fête business. J'arrive pas à
trouver. Je rappelle que les jeux sont financés majoritairement par de l'argent privé, hein, puisque c'est Paris de ces jeux, c'est que l'État en gros doit mettre 2 milliards et le reste c'est le privé, même si les budgets vont être sans doute plus importants.
Est-ce que tu peux quand même discerner,
les sponsors notamment.
Tu peux quand même discerner ce qui relève véritablement du bénévolat JO. Et là où tu dis, bon, écoutez, là, finalement, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de placeurs, etc.
Ben, ça sera des bénévoles.
À ce moment-là,
tu fais la distinction.
Regarde, par exemple, pour l'Euro, tu avais des bénévoles qui étaient là juste pour dire aux gens, il faut passer par là. Et puis après, tu avais un vrai travail d'encadrement ou de plaçage ou quoi que ce soit.
Oui, on va pas leur demander de fouiller.
Je pense que ça doit pouvoir être distingué. Mais si les 45 000, finalement,
ils vont travailler. Ce que dit le député insoumis Corbière, pardon, on n'est pas complètement idiot. Il dit, c'est des jeunes qui vont bosser beaucoup. Ils vont faire plus que 35 heures, d'ailleurs.
Ils vont pas être payés pour ça.
Le fonctionnaire de la ville de Paris bosse 32 heures, mais là, les bénévoles de la ville de Paris vont travailler 48 heures. Et gratuitement. Alors, comme ils sont jeunes, on se dit, on peut les faire bosser beaucoup. On leur donne un repas par jour. Ils sont pas hébergés. Alors, si on leur paye leur transport, donc s'ils viennent de loin, le transport sera remboursé. Et on voit pas bien la frontière entre bénévolat et salariat. Excusez-moi.
Places de match, des places de.
Non, ils n'ont pas de place de compétition. Non,
ils
ne
vont même pas voir les compétitions.
Tu fais ça pour la gloire. Après, on va te dire, tu peux garder le t-shirt et la chasuble. Sois content. Charles.
Non, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup.
Je trouve que c'est ambigu, en fait.
J'ai beaucoup d'admiration pour ces bénévoles. Je ne comprends pas bien ce qui les motive.
Plus de 300 000 candidatures.
C'est absolument admirable, donc c'est de prendre part à cette
admirable et incompréhensible.
Non, mais c'est de la sainteté même à ce stade. Je pense qu'on pourrait déposer auprès du Vatican des demandes de béatification et de canonisation et soumettre à l'Élysée des nouvelles candidatures pour le Panthéon en cas de décès sur zone par malaise. Mais bon, je rejoins ce qu'a dit Joël. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont gagner beaucoup d'argent avec ces jeux. Je pense que dans le comité, il y a quand même à boire et à manger. Je pense qu'il faut regarder. Je ne pense pas que ce soit si anecdotique que ça, la rémunération des stanguets, etc. Je pense qu'il faut voir exactement combien chaque personne est payée dans cette histoire. Et je crois qu'on aura des surprises. Et donc... ça peut pas être à la fois une cash machine pour certains et un acte totalement désintéressé pour d'autres.
On pourrait leur donner une prime, quelque chose à ces bénévoles.
Voilà, je trouve qu'il faudrait que ces bénévoles.
On donne bien aux
bénévoles, mais sans leur verser forcément un salaire auto-horaire, etc. En plus, ça rend dingue, franchement, parce que quand on pense au nombre de fonctionnaires qu'on paye...
Les primes qu'on est en train d'accorder en ce moment aux cheminots.
Et auxquels on aurait pu demander...
On achète la paix sociale à SNCF.
Et vous avez vu que les cheminots échappent à la réforme des retraites, finalement. Ça, c'est encore un autre sujet. Les cheminots ont trouvé un accord...
Donc d'un côté, il y a des primes
qui fait qu'ils échappent à la réforme des retraites qui sera appliquée à tous les autres. Donc oui, je pense qu'on se sortirait la tête haute de ça en débloquant quand même un budget pour verser une prime aux bénévoles, mais je pense qu'on aurait pu mettre davantage à contribution notre armée mexicaine de fonction publique, notamment
Antoine
territoriale.
Nous appelle de l'Essonne de Brunois. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Parce que vous êtes en plus président et entraîneur de hand. Est-ce qu'on a affaire à du vrai bénévolat ou à du salariat déguisé, alors ?
Mais en fait, pour moi, vous débarquez le sport en règle générale. Et ça va de mon club de hand tout petit au PSG, ne fonctionne que par des bénévoles.
Ouais.
Et du coup, là, donner la possibilité à des bénévoles, et j'insiste sur le mot, de vivre des JO, de pouvoir se rapprocher d'athlètes, de compétition ou quoi, mais pour les bénévoles, c'est vraiment une belle opportunité. À ce moment-là, ils demandent rien parce qu'ils sont en train de vivre leur passion. Nous, tous les week-ends, tous les bénévoles qui font tourner tous les clubs de France, ils gagnent pas un euro.
C'est du foot amateur.
Et c'est du foot amateur. Les enfants qui accompagnent le PSG sur les terrains ou les ramasseurs de balles, ils participent au football professionnel. Ils vivent un rêve et pourtant ils prennent 0 euro. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de leur passion.
Oui, mais est-ce que c'est pas l'exploitation finalement de gens, de la motivation des gens ? Parce que on nous dit, par exemple, et c'est Corbière qui parle, qui dit que ça va dégager 9 milliards d'euros de profit les JO. Alors certes, ça va rembourser ce que ça a coûté, mais moi, c'est deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on voit quand même, effectivement, des gens qui sont grassement payés, notamment les membres du CIO, du comité olympique, des primes qu'on offre à tous les fonctionnaires qui sont mobilisés, et c'est normal de donner, mais bon, en ce moment, il y a quand même des bonnes négociations et le patron de la SNCF est en train de céder sur tout, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir 45 000, surtout des jeunes bénévoles, à qui on dit bah, écoute, t'auras un sandwich à midi et estime-toi heureux.
Il faut le voir des deux côtés. Hein. Parce qu'il va y avoir aussi des milliers d'euros, ou des millions, ou des milliards, j'en sais rien, qui vont être redistribués à des fédés, je sais pas, à la fédération du tir sportif, ou du tir à l'arc, ou de l'escalade. Heureusement qu'il y a les JO, et encore plus cette année à Paris,
pour qu'ils prennent
un peu d'oseille, parce qu'avec ça, au niveau médiatique, ils n'auraient rien du tout sinon.
Bien sûr, vous avez raison.
Donc ça participe aussi à ça. Parce que s'il faut rémunérer les bénévoles, c'est de l'oseille qu'il va falloir prendre dans une autre
poche. Peut-être pas les rémunérer, mais leur donner plus qu'un repas par jour.
Mais vous donnez
des places pour les compétitions.
Moi, je suis quelqu'un qui fait un travail normal. Hein. Pouvoir aller voir un match de hand gratuitement, pouvoir serrer la main à des joueurs et pouvoir rentrer dans les vestiaires, ça me suffit largement, parce que c'est quelque chose que j'aurais fait que 2-3 fois dans ma vie.
Oui, c'est l'occasion de le faire.
C'est juste.
C'est vrai.
Vous êtes sûr qu'il va pouvoir le faire au moins ?
Pas tous.
Bah, j'espère au moins que quelqu'un qui fait la sécurité autour d'un stade pendant une semaine, j'espère que pendant la compétition, il a le droit au moins de regarder
alors là,
un stade.
Antoine Walou.
Très sécurisé.
Je vous le signe maintenant, là, si vous voulez. Je vous signe une quille.
Il y en a qui veulent vivre les jeux de l'intérieur.
Les bénévoles qui sont en cause, pardon. Mais je comprends qu'on ait envie d'être bénévole.
Mais eux, ils savent à quoi.
La façon dont on les traite.
Oui, mais est-ce que. Alors, si les bénévoles. Parce qu'il y en a plein. Je crois qu'il y avait 300 000 inscrits, et puis à la fin. Il y en a qui se sont désistés. Il y en a peut-être qui vont encore se désister parce qu'ils n'auront pas le logement. Donc, à la fin, ne restera que ceux vraiment qui souscrivent à cet engagement.
Justement, est-ce qu'on ne profite pas de cette motivation qui est compréhensible ? Est-ce qu'on n'exploite pas la motivation, sachant qu'à côté, il y a énormément d'argent brassé ? Si tu veux, on va faire des jeux qui vont coûter 12 milliards d'euros, finalement, hein, au lieu des. Et derrière, on dit les 45 000, votre passe Navigo sera remboursé.
Je remercie Antoine d'avoir été avec nous et très admiratif de sa foi
en
les JO, Antoine, parce que écoutez le témoignage de Patrick qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Votre fils va se retrouver embringué dans les JO, lui.
Oui, tout à fait. Alors donc je résume rapide. Interne en médecine d'urgence, donc il est médecin, encore étudiant, avant de devenir docteur. Il a donc été sollicité pour participer au maintien de la cellule médicale du village olympique.
D'accord.
Où il y aura 40 000 personnes tout de même.
Mm-hmm.
Et de là, On lui dit, bah, vous vous débrouillez pour vous loger. Bon, les étudiants en médecine ont des réseaux, ça va, ça c'est réglé. Par contre, on lui dit également, bah, vous paierez vos repas. Vous-même, vous vous débrouillez. Il n'y a pas de sandwich, il n'y a rien.
Il n'y a même pas un repas à midi parce que c'était pourtant ce qui est prévu.
Non, il n'y a pas.
Ah bon ?
Ils payent. Ils ont une cafétéria, mais ils payent. Et donc, en fait, ils vont se taper des gardes de 12 heures, comme ils font à l'hôpital. Et en fait, on leur dit, bah, vous paierez de votre poche.
Alors, c'est choquant.
Ce qui, moi, me choque, je suis chef d'entreprise. Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que, a priori, vous vérifierez, vous ferez vos recherches, a priori, l'organisateur de la cellule médicale est le même qui fait l'organisation de la cellule médicale de Roland-Garros.
D'accord.
Et moi, je me pose la question, il y a un business derrière.
Oui. Il le fait gratuitement, lui ?
Lui, doit pas, il ne le fait pas gratuitement.
Il a posé la question.
Ouais, une bonne question, effectivement.
Voilà. Vous aurez peut-être la réponse qui vous surprendra. Moi, je trouve que, voilà, on a des internes en médecine qui font 50 heures par semaine minimum. Ça, vous le savez tous. Hein. De toute façon, quand vous êtes à l'hôpital, en interne, c'est bon. Et qui vont poser leur congé annuel. Ils prennent sur leur congé annuel pour venir au jeu.
La motivation profonde de votre fils, oui, c'est quoi ? Il est fan de sport ? Il veut profiter de l'instant ?
Alors, d'abord, effectivement, moi c'est ce que je lui ai dit, hein, j'ai dit, vas-y, parce que c'est tu le reverras pas deux fois dans ta vie, c'est normal. Donc, il y a cette motivation, il y a le plaisir de découvrir d'autres choses, vous comprenez ? Voilà, on ne met pas en cause le fait qu'il ne soit pas rémunéré, ça il s'en fiche.
Ouais, d'accord, mais dans ces cas-là, il faut que tout soit pris en charge, à ce moment-là, Patrick, c'est-à-dire le logement... la nourriture, vous soyez logé, nourri, blanchi, comme dit l'expression. Patrick, c'est une histoire à creuser. À mon avis, ça va monter, ces histoires autour des bénévoles.
Mais oui.
On a posé la question, est-ce que pour vous, ce sont les salariés, des salariés déguisés, les bénévoles des Jeux Olympiques?
Nos gauchistes d'auditeurs vont dire oui.
Ils sont plus de 45 000. 84% de oui, c'est du salariat déguisé.
C'est pas des gauchistes. Oui, mais c'est quand même formidable qu'il y ait des bénévoles.
Mais
il faut qu'on arrête de chouiner en France. Parfois, il faut faire les choses de manière désintéressée, par passion, sans être là à vouloir gratter sa petite rémunération, sa petite compensation, sa petite cotisation aux retraites. Et attention, oh là là, il est 18h02, je devrais déjà être parti depuis 10 minutes, et nanana, mais il y a des baffes qui se perdent dans ce pays de branleurs. Moi, je trouve ça formidable que ces jeunes soient suffisamment passionnés par ces jeux pour s'engager comme bénévoles. Moi, ça m'arrive comme avocat de défendre certains dossiers gratuitement, juste pour le plaisir de prendre le dossier, parce que la cause me touche, parce que machin, et je vais rester jusqu'à je ne sais quelle heure au tribunal, et je m'en fous, ça me fait plaisir de le faire. Donc, franchement, cet étudiant de médecine, c'est quand même ce que la France fait de mieux, ça. Hein, il est étudiant en médecine, il est déjà dévoué à full time dans un truc incroyable.
Et il doit se démerder.
Et en plus, il est suffisamment pas. Alors, je suis d'accord avec vous. Voilà, il faut qu'il soit traité dignement. Mais qu'on commence pas à dire qu'il faut les rémunérer que ceci, que cela.
Donc, t'es un gauchiste comme les autres, Charles.
Non, allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h midi. Attention. Bientôt.
La roue RMC revient.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Aujourd'hui, notre trio de grande gueule est Antoine Dierce, Charles Consigny, Joël Dagosséry. On va passer avec vous, bien sûr, au GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Vous vous souvenez qu'en 2019, le Parlement avait adopté une loi qui interdisait le droit de correction, en fait, les violences contre les enfants. Et puis, on a cette affaire qui remonte à octobre 2022 qui met en cause un policier. Et c'est l'un de ses fils qui est allé porter plainte en expliquant qu'il subissait les violences de la part de son père, policier depuis l'âge de 5 ans. Les parents étaient depuis l'âge de ses 5 ans séparés. Il racontait que son petit frère de 9 ans aussi les subissait, et il disait, quand on fait des bêtises, on se fait étrangler, on se fait coller contre le mur, on est terrifié à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a eu à Thionville un procès en première instance. Le père a été condamné à 18 mois de prison assorti d'un sursis probatoire de 2 ans, comprenant notamment obligation de soins, stage de responsabilité parentale et plus de contact avec la mère des enfants. Sauf que, en appel, le même policier a contesté les violences. Il a reconnu une éducation qu'il a qualifiée lui-même de rude sur ses fils. Il dit « Oui, j'ai peut-être tiré les cheveux, j'ai mis des fessées. » L'avocat, comme c'est une histoire de divorce, a plaidé l'instrumentalisation. Mais voilà ce qu'a dit la cour ensuite concernant l'effet de violence sur les deux enfants. Elle a reconnu les fameuses gifles tirées les cheveux, mais elle a évoqué le droit de correction reconnu aux parents dès lors qu'ils n'ont pas causé de dommages à l'enfant et qui reste proportionné. Tout parent a le droit à une force mesurée et appropriée. Donc, cet homme a finalement été relaxé. Alors, s'il pourvoit maintenant en cassation, ça choque les associations de défense familiale. Est-ce qu'on peut reconnaître un droit de correction parentale proportionné? Oui pour Antoine, non pour Joël, Olivier et Charles. Mon cher Antoine, à toi de t'expliquer en 60 secondes, et puis ensuite, vous venez en parler avec nous au 32-16.
Alors, en introduction, je suis bien obligé de préciser que je ne suis pas favorable au châtiment corporel pour les enfants, bien entendu. En revanche, dans le cadre, dans l'espèce aujourd'hui, on est dans un contexte de divorce où, bien souvent, on reproche au père d'être terrible avec ses enfants. C'est quelque chose de très difficile à démontrer, tant d'un côté que de dire qu'on n'est pas responsable. Et donc, je trouve ça assez légitime que les juges puissent dire que dans le cadre d'une éducation des enfants, il puisse y avoir une exemption de peine pénale pour certaines punitions corporelles, à condition bien sûr, comme le juge le dit, de ne pas causer de dommages à l'enfant, que ce soit proportionné au manquement commis et qu'il n'y ait pas de caractère humiliant. Et donc vraiment, je me dis, tiens, dans cet océan de bien-pensance, de temps en temps, un juge fait preuve d'un peu de discernement et considère que oui, il y a eu peut-être des gestes d'éducation un peu rudes, un peu forts, mais qu'il ne faut pas sanctionner le père.
Joël, Charles ?
Comme vous voulez.
Charles, vas-y, mec.
Non, moi, je
c'est une décision ça... de justice qui surprend beaucoup.
Non, mais
hein.
C'est une décision abominable. Je trouve ça abominable, les violences même légères sur les enfants. Et dans l'ensemble, je trouve que les parents prennent trop de liberté sur leurs enfants. Si c'est pour hurler sur les gosses toute la journée, autant ne pas en faire. Je vois tout le temps, partout, des parents qui sont exaspérés par leurs enfants, que la moindre... Le moindre désordre gêne, et ils veulent avoir des enfants bien sages, etc. Et il s'agit de dresser les enfants, on leur impose des horaires, ils doivent finir leur assiette, ils doivent aller se coucher avant telle heure, on ne peut pas aller faire tel jeu, etc. Certains parents éduquent leurs enfants comme si c'était des animaux sauvages. Je trouve ça absolument insupportable, et je pense qu'en plus, il n'y a pas un pédopsychiatre, un spécialiste du sujet qui vous expliquera que une éducation dure est une bonne chose pour les enfants. Il faut tout s'explique au contraire qu'il faut leur foutre la paix le plus possible, sans en faire des enfants rois, leur foutre la paix, ne pas leur imposer 500 000 contraintes en permanence, ne pas leur
tu
hurler
crées des enfants
dessus
rois sans contraintes.
Et ne certainement pas les taper d'ailleurs. Les écoles qui maintenant sont plus sur ce mode-là sont plébiscitées par les parents qui ont les moyens de les y mettre, c'est-à-dire Montessori, l'école alsacienne, etc. C'est parce que précisément ils savent que les enfants seront respectés et ne subiront pas une éducation trop dure. Donc je suis pour non seulement l'interdiction totale et la répression totale des violences physiques sur les enfants, mais je pense également qu'il faut arrêter de brutaliser psychologiquement les enfants. Et enfin, je dirais même que ça, je vais même plus loin que ça. Pourquoi est-ce que on devrait tous être éduqués à être sages, obéissants, domestiqués? Qu'est-ce que c'est que cette société de robots et de soumis? Moi, quand j'aurai des enfants, quand j'en ferai, d'abord ils seront
élevés, on va rigoler.
Ils seront élevés par des nurses parce que j'ai autre chose à faire que d'élever voilà. Des enfants.
Ils seront malheureux.
Mais elles auront consigne.
Ils n'iront jamais leur père.
Elles auront consigne. Ils viendront faire un bisou avant d'aller se coucher, comme on faisait au 19e siècle, c'était très bien. et elles auront consigne de leur laisser toute liberté.
Ils
viendront en bout de table. table, le majordome les introduira. Et voilà. Mais je pense que vous me faites perdre le fil de ma
pensée. Tu dis que tu ne veux pas forcément qu'on ait tous des enfants.
Moi, je ne veux pas. Je suis domestiqué. Et enfin, je trouve très français aussi cette manière de briser les rêves, de tout interdire, de tout réglementer. Je pense qu'il y a d'autres pays où on éduque avec plus de liberté et ça fait des peuples moins administratifs. Voilà.
Je suis assez d'accord avec toi, sauf que
avec Joël, on va peut-être sortir de cette équipe. Hein.
c'est dur. Charles, tu considères l'enfant comme unique. Il serait forcément gentil, bienveillant et brisé par un système.
Non, je dis qu'il faut lui foutre la paix.
Tu dis les parents privilégient les écoles de bienveillance Montessori. Ouais, il y a aussi un paquet de parents qui cherchent des internats bien durs parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir avec leurs parents.
Et le privé est
donc de plus en plus
en général,
de privés.
Parce qu'ils ont gueulé sur leur gosse pendant leur enfant.
Je suis pas sûr que ce soit ça. Et donc en fait, il y a pas un enfant unique. À mon avis, chaque enfant a besoin de réponses différentes.
Ça, c'est vrai aussi. Joël.
Non, mais j'aurais pu me retrouver avec Antoine.
On n'est pas loin de
changer de. Mais parce que la question, si elle n'était pas appliquée à ce cas précis, j'aurais dit effectivement oui. Cette façon de ne absolument pas vouloir toucher à l'enfant, ça fait des enfants qu'on retrouve aujourd'hui dans les écoles et dont on dit oh là là, on s'en sort plus, ils sont intenables, etc. Ils ne supportent pas l'autorité. Simplement, dans ce cas, ce qui me gêne, c'est quand même un papa, je crois, qui a été aussi condamné pour violence envers sa femme. Et je crois qu'un enfant, pour l'avoir été un peu brutalisé, comme on peut dire, par mon ex-beau-père, je crois qu'on sait faire la différence entre une correction directe classique. Voilà, j'ai aussi eu des fessées de la part de ma maman, de mon papa. J'ai jamais traité ça de maltraitance. Et quelqu'un qui te tire les cheveux, parce que je l'ai aussi eu, qui te tire les cheveux et qui te colle au mur et qui t'étrangle. Ça, pour moi, enfin, quand un juge entend ça et qu'il dit « c'est pas très grave, c'est un droit à la correction », honnêtement, c'est, comme l'a dit Charles, c'est abominable. Enfin, je crois qu'on... je ne sais pas qui sont ces juges, mais de qualifier ça de droit à la correction, ça, c'est un droit à la maltraitance.
Je ne suis pas sûr que le juge ait validé ces faits-là.
Il faisait partie du dossier.
Comme Joël, j'ai rejoint ce camp-là. Je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Charles sur les enfants. Ils sont trop brimés, je crois, au contraire. Ils ne sont peut-être pas assez. Il y a un problème d'autorité, on le voit tous les jours dans l'actualité, malheureusement. En revanche, là, je crois qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui est violent. Et que là, le juge a manqué de discernement, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose de parfois, parce que tu perds tes nerfs, de crier sur ton enfant, et parfois lui mettre une fessée, et tu le regrettes après, parce que t'as. Mais en même temps, c'est ça, parce qu'être enfant, il faut foutre un peu la paix aux parents. Hein. C'est du pragmatisme hein, d'être parent, les enfants. Voilà, on fait ce qu'on peut. Là, visiblement, on a affaire quand même à quelqu'un qui a l'air d'être violent, qui a été violent visiblement avec son ex. Qui serait violent si avec ses enfants. Et je me demande si les juges ne sont pas passés à côté de quelque chose. Mais,
attendez, tu dis qu'il a l'air d'être violent parce qu'une première décision l'avait condamné pour violence. Là, il y a appel et il n'est pas condamné. Ouais. Donc il n'est pas violent. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire. Il y aura un recours en cour de cassation, mais soit la première décision s'applique, soit. Et donc tu considères qu'il est violent, soit elle est cassée en appel, et donc tu considères qu'il n'est pas violent. C'est-à-dire tu reconnais, tu as une espèce de double légitimité.
Mais il reconnaît les faits.
Une éducation rude, il a dit. Je ne sais pas s'il a reconnu ces faits-là.
J'ai simplement tiré les cheveux ou mis des fessées.
Il l'a reconnu, ok. Tirer les cheveux, c'est pas
terrible. Rude.
Tirer les cheveux, c'est pas
une éducation rude, donc dans sa bouche, à mon avis, c'est un homme qui a du mal à maîtriser sa violence.
Droit de correction reconnu aux parents dès lors qu'elles n'ont pas causé de dommages à l'enfant et qu'elles restent proportionnées.
C'est ce qu'a dit la
cour d'appel.
Qu'est-ce qu'ils appellent dommage
tout
à l'enfant?
Tout parent a le droit à une force mesurée et appropriée.
Mais qu'est-ce qu'ils appellent sans dommage?
Pas de séquelles.
Parce que, en fait, oui, mais pas de séquelles. Peut-être physique.
Si tu brises un os.
Peut-être physique, il n'y en a pas, mais psychologique.
La commotion cérébrale.
Psychologique, si ton père te colle au mur, t'étrangle, et te tire les cheveux. Enfin, je veux dire.
Je suis d'accord avec toi.
Mais il faut du discernement. Et Charles a pris les lunettes de Joël. Et donc perdu.
Il est pas sérieux, cet enfant.
Par exemple,
on aurait dû le mettre à l'institution Saint-Malthus
pour reprendre un peu. La maltraitance de collègues.
Voilà.
Joël devrait avoir une réponse. dans ces cas-là.
Mais on est souvent
proportionné.
Je suis désolé, on est souvent
avec un coup de coude.
On est souvent témoin
dans l'arcade. Non,
moi, je trouve dans les transports en commun. Oui. Ça arrive souvent de voir, moi, ça, je vois souvent des comportements de parents vis-à-vis de leurs enfants que je trouve choquants. Mmh. Et qui me donnent envie d'intervenir. Bah, je trouve que souvent, les parents parlent mal à leurs enfants, sont trop durs, leur refusent des choses de manière totalement. Et en fait, passent leur nerf
dans le métro,
sur leurs enfants.
Dans le métro, dans le train, je vois surtout.
Ils sont
satisfaits de leur propre vie conne.
Oh non,
ils le transfèrent sur leurs enfants. Oui. Mais c'est très. C'est
moi,
ça.
Je vois le contraire.
Donc, tu fais quoi? Tu fais un permis de parents?
Complètement laxiste, avec des enfants qui foutent des coups de pied dans le siège, qui montent, qui crient, et t'as le parent qui est à côté, juste, tu vas arrêter Antoine?
Non, écoute, évidemment, c'est moi. Évidemment, c'est moi.
T'aurais pu dire, tu vas arrêter Charles, c'est visible.
Moi, je suis pour qu'on foute la paix aux gosses.
Non, moi, je change d'équipe. Je vais avec Antoine.
Vous êtes trop pas droit.
Joël, change d'équipe.
Non, parce que je peux pas entendre ce discours.
Eh bien, écoutez, vous avez entendu ce qu'en disent les GG. Droit de correction parentale proportionné, force mesurée et appropriée, a reconnu la cour d'appel à ce père qui a reconnu qu'il mettait des enfants, qu'il mettait des fessées et qu'il tirait les cheveux. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules, et vous saurez qui va l'emporter, bien sûr.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h30.
Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire, des réveils, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h30-9h.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On revient à notre discussion sur l'éducation. Ou plutôt, s'il faut reconnaître aux parents un droit de correction. C'est ce qu'a fait la cour d'appel. Du côté de Thionville, en reconnaissant à ce père qu'il pouvait user de son droit de correction dès lors qu'il n'y a pas de dommage à l'enfant, que ça reste proportionné, que c'est dans le cadre d'une force mesurée et appropriée, alors qu'il avait été... Ah, Joël, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je change d'équipe.
Joël change d'équipe. Elle ne veut plus être avec Charles. Avec Charles qui dit que c'est inadmissible et... Elle rejoint Antoine Dierks et son droit...
Le camp des laxistes qui...
Voilà. Ah, et Olivier aussi. Ah mais d'accord.
Oui, j'étais choqué par les propos de Charles.
Oui, on s'est trompé, on n'a pas vu qu'on était avec...
Statistiquement, tu sais combien de cons pour un intelligent?
Oui. Bah là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un de con.
Non, mais c'est pas vrai, j'en reviens pas, regarde. Mais écoutez, je suis ravi de défendre seul la cause.
Ne souhaitons pas rester
Charles,
avec
du côté
cette propagande laxiste.
Ils sont leur la liberté, grandir dans la liberté.
Et par ailleurs,
et pas dans le formatage de l'éducation et de la sanction.
Vous pouvez avoir cette attitude et élever vos gosses de manière à ce qu'ils deviennent des êtres soumis. Mais moi, je trouve que c'est même pas un sujet avec lequel on peut vraiment plaisanter, parce que le nombre d'enfants battus à côté desquels on passe, la nullité des services sociaux dans ces cas-là, la pleutrerie des gens qui sont témoins, qui entendent chez le voisin le gosse se faire cogner, qui voient le gosse arriver à l'école, qui savent qu'il y a quelque chose, le temps qu'ils mettent avant d'intervenir, avant de signaler ce qui se passe.
Charles, c'est
quelque chose quand même de réel.
Une espèce de coup d'avocat qui détourne le sujet.
Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui existe.
On est entièrement d'accord avec toi. Mais c'est une autre forme de maltraitance que de ne pas donner de cadre à un enfant.
Il faut tolérance zéro s'agissant de la violence.
Non, mais personne autour de cette table ne défend la violence contre les enfants qui doit être condamnée. On a changé de camp avec Joël lorsque tu as expliqué qu'il fallait surtout pas donner de cadre aux enfants, qu'il fallait laisser dans une liberté totale. Moi, je pense qu'il faut leur foutre la paix. Quand tu seras père, tu verras que tu rendras service à ton enfant en fixant un cadre. C'est parce que justement tu fixes un cadre sans être un père fouettard. C'est parce qu'il va pouvoir se construire. Et c'est justement parce qu'il aura des remparts, il saura ce qu'il peut faire et pas faire, qu'il pourra bien se construire. construire. Mmh. Regarde dans l'actualité tous ces mineurs qui commettent des choses abominables.
C'est des ados,
le point commun, ils ont 14-15 ans. Le point commun de tous ces jeunes, c'est qu'ils n'ont pas eu de cadre. Le père n'est pas là. Ils sont dans des familles défaillantes. Je pense notamment aux deux là qui ont massacré à mort Philippe. On a eu leur profil. C'est exactement.
Et souvent, ils se sont fait boxer dans leur famille.
Non, il y avait personne. Ils étaient dehors toute la journée, etc. Ils étaient laissés justement libres à eux-mêmes. Et c'est
alors,
ça
on va en discuter du côté de la Haute-Savoie et du côté de l'Essonne avec Junior qui est routier, donc essonien. Bonjour Junior.
Oui, bonjour.
Alors, dans quelle équipe êtes-vous? Est-ce que c'est choquant, pas choquant? Dites-moi.
Moi, je suis pas choqué. Alors déjà, je suis pas choqué, mais je dirais qu'il faut pas frapper sur l'enfant pour le plaisir de frapper. On se dessine pas sur son enfant. Je veux dire qu'en gros, il faut quand même que derrière, ils comprennent que frapper son enfant sans discuter avec lui, ça sert à rien. Enfin, c'est juste dessiner sur son enfant. C'est prendre son enfant pour un punching ball. Mais si derrière, il y a une bonne communication, mais bien sûr qu'il va comprendre.
Ah bah moi, j'avais tellement peur une de baffe mon père. Et puis après, une bonne communication. Mais dans ce cas-là, ça va.
Moi, j'ai pris des coups de ceinture, moi, je vous le dis concrètement.
Alors, vous trouvez que ça vous a aidé?
Mais bien sûr. Ah bon. Parce qu'à l'époque, peut-être que pendant que je prenais mes coups de ceinture, je ne vais pas vous dire que j'étais d'accord pour les prendre les coups de ceinture pendant que je les prenais.
Quel âge aviez-vous, Junior?
Bah, j'avais entre 9 ans et 17 ans, après, parce que après mes parents, ils étaient trop vieux pour me frapper, et puis même, je commence à comprendre la vie aussi.
D'accord, et pourquoi vous preniez les coups de ceinture? Qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque alors?
J'avais fait toutes les bêtises possibles, hein, je pense, quand même. Hein. Déjà, à chaque fois, je volais les clés de mon père, j'allais conduire sans permis, et la police qui appelait mon père pour me dire...
À 9 ans, quand même hein.
Ah oui, c'est pas rien que je faisais comme bêtise. Attention, hein, je suis pas en train de vous dire que... mais quand mon père rentrait, il venait me chercher au début. Mon père le disait au commissariat, non, moi, j'ai pas de gosse qui fait ce genre de conneries, là. Donc, gardez-le. Donc, déjà, les policiers me gardaient pendant près de 24
visiblement, heures. Ça a duré 8 ans, donc les coups de ceinture n'étaient pas vraiment efficaces, quand même.
Mais que j'ai pas conduit à l'âge
l'intérêt, c'est de pas les renouveler, c'est que vous
j'ai
arrêtiez.
J'ai conduit à l'âge de 10 ans, je suis pas en train de vous dire que j'ai conduit à l'âge de 10 ans.
Pourquoi vous faisiez ces bêtises, Junior?
Parce que je venais d'arriver en France et que c'est une liberté, disons. Je viens de comprendre, je venais d'arriver en France, déjà arrivé au Nigeria, parce que moi je suis originaire du Nigeria. Au Nigeria, les profs, ils avaient le droit de vous chicoter. Donc sachez que si vous alliez vous plaindre...
Vous chicoter, on a fait ça en Afrique.
Donc concrètement, si je me faisais chicoter et que je rentrais chez moi et me plaindre que maman, tu sais que je me suis fait chicoter par le prof parce que j'ai pas fait mes devoirs. Non seulement le prof, il était mieux payé, mais en plus il devenait mon prof à la maison aussi. C'est-à-dire qu'on l'appelait pour qu'il vienne me donner des... Ah oui, je vous assure, mon prof devenait
toi, l'immigration, ça a du
mais
bon.
Attendez, j'ai pas de soucis. Là-bas, ils réagissent comme ça. Chez nous, ils sont différents.
Quand
je suis arrivé en France et que j'ai vu des camarades de classe pouvoir dire « ferme ta gueule, le prof », on lui disait juste « va au coin », moi aussi, j'ai commencé à croire que j'avais des libertés.
Entièrement d'accord.
Forcément, quand on me dit « va au coin » ou « tu vas juste écrire le règlement à l'intérieur du froid », franchement, c'était à l'aise pour moi, c'était facile.
C'est donc, un appel à plus d'autorité, Junior, on est d'accord.
Donc du coup, quand j'ai commencé à prendre 2-3 baffes, je vous cache pas que du coup les bêtises, je les faisais moins. Mais en grandissant, je fréquentais d'autres gens qui faisaient d'autres bêtises, donc moi aussi j'ai encore fait d'autres bêtises.
Et Junior, et vous êtes papa aujourd'hui ou pas?
Aujourd'hui, je suis papa, oui.
Vous avez combien d'enfants?
J'ai 2 enfants, il y en a un qui a 15 ans.
Et quel type d'éducation vous leur donnez alors?
Ah ben lui, il a pris quelques bonnes fessées, mais il l'a pris beaucoup plus tôt. Et finalement, aujourd'hui, je suis très fier de lui.
D'accord. Et le deuxième?
Le deuxième, il va naître... Le deuxième, il est né là. Là, il y a 10 minutes.
Ah, 10 minutes. C'est vrai?
Non, j'exagère. Ah bon. Quand je dis il y a 10 minutes, il est né hier.
Félicitations.
Bravo.
Comment ça va?
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que ça va être chaud.
Il s'appelle Elijah.
Ben, félicitations et bienvenue à Elijah, alors, mon cher Junior. Et merci de votre témoignage. J'avoue donc.
Non mais
Junior,
non,
lui, il a été cadré
avec l'éducation que mon père m'a donnée. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, mon père n'est plus là. Mais je vous le dis, mon père m'a sauvé la vie. Et mes cousins et moi, nous sommes tous d'accord pour vous le dire que nos parents.
Mais voyez, Junior, dans vos témoignages, après, on peut débattre du coup de ceinturon, etc. Moi, je suis pas spécialement favorable. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est que, en fait, je crois qu'il faut laisser les parents tranquilles un peu.
Mais bien sûr.
Moi, je me souviendrai toujours de ce qu'avait dit un ancien ministre socialiste, Vincent Pillon, l'éducation, en expliquant que les parents étaient défaillants et que, de toute façon, l'État était les seuls compétents pour bien élever un enfant.
Non,
on était dans l'idée que l'État tout puissant devait vais remettre dans le droit chemin des parents mal élevés, forcément, par définition. Non, moi, je pense qu'il faut laisser les parents faire ce qu'ils peuvent.
Oui, mais c'est pas évident. Mais
tous les enfants
désolé,
sont différents.
On n'est pas au 19e siècle.
Allez-y, Junior.
Moi, ce que je pense, c'est que l'État peut aider les parents. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses que l'État fait de bien aussi. On ne peut pas cracher dans la soupe. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne crache pas sur
l'État. Je pense que l'État est trop présent, mais bon.
Oui, l'État est un petit peu trop présent dans le fait d'interdire aux enfants de faire n'importe quoi. Et je vous donne l'exemple de mon petit cousin. Mon petit cousin qui a 15 ans de moins que moi. Mais bizarrement, avec 15 ans de moins que moi, aujourd'hui, c'est un des adjoints d'une grande ville que je ne peux pas citer parce que sinon je l'affiche, mon cousin. C'est l'adjoint de premier adjoint du maire d'une ville. Et voilà, c'est d'une grande ville de l'Essonne.
D'accord.
Donc, c'est pour vous dire à quel point, quand il avait 17 ans, son père voulait le chicoter, comme à l'époque, comme moi aussi, je voulais le chicoter. Mmh. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé au mec de son quartier d'aller s'en prendre à son père. Les mecs du quartier ne savaient pas que c'était son père.
Ah, oui.
Ils allaient le faire, et au dernier moment, il y en a un qui a reconnu son père, il a dit non, on ne fait pas ça aux parents, par rapport à quoi. Et finalement, quand le père s'en est rendu compte, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a envoyé au Nigeria pendant 3 ans. Il l'a envoyé au Nigeria pendant 3 ans. Au bout de, à son retour du Nigeria, le vous savez, je vous assure, hein, ils ont passé l'aéroport. Le père a dit donne-moi ton passeport, je te le garde. Mais en fait, il l'a brûlé devant lui pour lui montrer que tiens, tu vas rester ici, on va voir ce que ça donne. Tu vas comprendre c'est quoi la vraie vie. Parce que en Europe, on a des faux problèmes des fois. Je vous assure, on a des faux problèmes. Et finalement, quand il est revenu, il a dit merci papa. Et finalement,
c'est la méthode du père et c'est pas la méthode de l'État.
On propose des stages au Nigeria.
Mais oui,
pour tous les.
Attal, au lieu de dire il faut
les internats.
On envoie tous les petits au Nigeria.
À Lagos, tu vois, pendant 3 mois, à la méthode du cousin de Junior, là, et ce sera efficace. Junior, merci d'avoir été avec nous. Bonne route. Merci, monsieur le routier.
Merci.
À bientôt. Salut. Et bienvenue au petit Elijah, alors. Salut, Junior.
Merci beaucoup.
On a Sylvain qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour,
droit de correction ou pas, alors?
Non, sincèrement non. Après, j'ai bien écouté le témoignage qui vient d'être annoncé. C'est un parcours différent, on est bien d'accord. Ça change rien. D'abord, il y a deux catégories d'enfants. Il faut arrêter de penser que les enfants sont bien ou sont mal fonction d'eux. Il y a des enfants qui s'en sortiront toujours et des enfants qui s'en sortiront jamais. Il y a des enfants qui feront des conneries et d'autres qui en feront pas. Moi, mes fils, j'ai eu une enfance assez spéciale. J'ai été élevé par mon beau-père. Mon père n'avait rien à péter. Ça a été dur. Ça a été dur et ça m'a pas empêché de faire des conneries. Et moi, c'était mon beau-père, et à partir du moment où il m'expliquait qu'il fallait pas que je fasse quelque chose, la première chose que j'avais envie de faire, c'est de la faire juste pour le faire chier. Donc aujourd'hui, moi, mes enfants, j'en ai un qui a 28 ans, l'autre qui a 20 ans, ils sont droits, ils sont carrés, ils ont pas de casier judiciaire, ils sont appréciés par leurs amis, appréciés par un tas de gens, et j'ai jamais levé la main sur mes enfants, j'ai promis, j'ai jamais donné.
C'était dans la discussion, vous avez surtout...
Vous avez promis quand même, c'était une menace.
Qu'on n'a pas le droit de faire.
Ouais.
Et surtout, il faut expliquer pourquoi, comment. Expliquer pourquoi, comment, parce que les gosses, ils sont pas bêtes. Si on leur explique ce qui peut y arriver, quelles sont les conséquences et comment ça va se passer, il faut leur expliquer la vie, il faut leur expliquer un tas de choses. Et il faut être complice, il faut être là pour eux, il faut qu'ils puissent avoir confiance, parce que si demain il y a un problème, et qu'ils savent qu'ils vont prendre les coups, eh ben ils vont pas en parler et les problèmes vont s'aggraver. Et quand on s'en apercevra, ce sera trop tard. Alors que si on est complice et que les gamins ils ont confiance et qu'il y a une vraie confiance, parce que la première des choses à faire, c'est pas de donner tort à son gosse quand on sait pas ce qui s'est passé. C'est normal qu'on défende son enfant, pas n'importe comment, mais c'est normal qu'on défende son enfant. Il faut lui donner confiance, lui donner
est-ce que l'enfant dit la
possibilité
vérité
de venir discuter et d'expliquer pourquoi. Moi, j'ai mon fils, une fois il m'a ramené il avait envie d'acheter des carénages de scooter qui étaient nickel, qui étaient neufs, qui étaient ci, qui étaient là, qui étaient pas chers. C'était un bon coup. On discute et discute et discute parce qu'il y a rien n'est gratuit. Et j'ai posé la question. On a fini par avoir la discussion. En fait, c'était une arnaque à assurance, soi-disant. En fin de compte, c'était simplement des pièces volées. Je lui ai dit non. Je lui ai expliqué pourquoi. Simplement, si tu acceptes d'acheter des pièces volées, tu acceptes qu'on te vole ton scooter à un moment ou à un autre. Donc, on va arrêter les conneries, parce que si demain tu vas sur ce terrain-là, ce qui peut se passer, c'est très simple, c'est que tu vas finir en prison. Donc, je l'ai amené dans sa chambre, je lui ai montré sa chambre, j'ai dit là, tu vas passer 23 heures par jour enfermé ici, avec peut-être deux personnes qui vont te regarder quand tu vas aller aux toilettes, parce que c'est là que tu vas passer ta vie. Est-ce que tu as envie de vivre ce genre de choses pour gagner 300 euros, alors qu'à 300 euros, on peut les avoir neuf?
On n'est pas loin du droit de correction parentale quand même.
Mais des conneries comme ça, tu ne vas pas en faire.
Et donc, il a compris. Voilà, Sylvain, lui, il a privilégié le dialogue, l'exemple, et
ouais,
il a un peu peur.
Quoi. Ouais, enfin, il a menacé de prison. Hein.
Bah, il a dit, si tu continues tes âneries, voilà, loin ce qui va se terminer.
En fait, chaque enfant est différent. Et il n'y a que le parent qui peut savoir ce qui est bon pour son enfant.
Charles, parle-nous de ton enfance, parce que visiblement, tu as dû être trop cadré pour vouloir aujourd'hui.
Je pense qu'il n'a pas été cadré du tout.
Laisser la liberté totale.
C'est un enfant Montessori.
On m'a toujours foutu une paix royale. Ben voilà. Et je suis désolé, je n'ai pas l'impression d'avoir gravement déconné.
Bah, t'es avocat maintenant.
Par la suite, et donc voilà. Donc franchement, je trouve que ça va. Et je pense que cette passion pour la fermeté vis-à-vis des enfants se conjugue avec l'esprit négatif français. Je pense qu'il y a une espèce de double peine là-dedans. Si je vois autour de moi des tas de gens qui sont tellement contents d'édicter des normes qu'ils imposent dans leur maison et qu'ils imposent
cadre,
à leurs pauvres gosses.
Les gosses,
il faut les laisser s'ennuyer, il faut les laisser rêver.
Il faut les laisser avoir des idées
un peu farfelues. Il ne faut pas les forcer à finir leur assiette pour bouffer le truc dégueulasse qu'on leur a préparé.
Quand ton gamin aura fait une vraie connerie, tu viendras le voir et tu lui diras, c'est pas bien d'avoir mis le feu à la maison du voisin. Tu te rends compte même
qu'on ne peut pas vraiment faire ça.
Bah, on n'est pas dans une série américaine.
Sylvain, on va pas avec la maison du voisin.
Ils habitent même pas dans des maisons, les pauvres.
De Haute-Savoie, on va aller dans l'Isère.
Ils habitent dans des HLM.
Bonjour Adrien.
Bonjour à tous.
Bienvenue Adrien. Alors, plutôt du côté de la fermeté avec Joël, Olivier et Antoine, ou plutôt du côté du... il faut laisser de la liberté.
On va partager tout ça, on va se mettre entre les deux, on va être un peu plus raisonné. Bonjour à tous et puis encore une fois bonjour à Joël comme d'habitude.
La chouchoute.
on sait pourquoi.
Elle est super.
Adrien,
une déclaration d'amour là.
Contact sur les réseaux. Non, sur les réseaux on parle beaucoup.
Quel réseau? Des réseaux dark, underground?
Les réseaux professionnels, LinkedIn.
Exactement.
Voilà. je vais commencer par dire que la violence, c'est juste la politique du lâche. Clairement, frapper son enfant, j'ai été frappé, j'ai pris des très très belles corrections. Pas souvent justifié, mais je le sais aujourd'hui avec du recul qu'à l'époque, quand ma mère me mettait des trempes, parce qu'on peut vraiment appeler ça des trempes, c'était simplement parce qu'elle était dépassée, parce qu'elle ne savait pas comment répondre à des questions qu'elle se posait, comment faire obéir mes enfants, comment obtenir leur obéissance, comment.
Ouais.
Et c'était tellement plus facile de taper pour essayer de se faire entendre que d'essayer de dialoguer. La preuve, à partir du moment où on a eu la possibilité de lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle frappe parce qu'on pouvait répondre, elle a arrêté de le faire et elle s'est sentie tellement dépassée qu'elle a fui la maison. Ce que je dis, c'est quand même, moi j'ai jamais levé la main sur qui que ce soit, ni sur ma mère, ni sur... mon frère l'a fait. Mon frère, à un moment donné, a voulu se rebeller et comme il était plus fort physiquement, il a voulu se rebeller et là, ça a été monté en escalade. Moi, j'ai toujours dit que jamais je lèverai la main sur mes enfants. La preuve en est, c'est qu'il suffit juste d'un regard pour que mes filles comprennent qu'il ne faut pas qu'elles fassent de bêtises.
Quel âge ont-elles?
Elles ont 9 et 5.
D'accord.
Elles ont 9 et 5. Oh, mais moi, les enfants qui crient, qui tapent des pieds dans les supermarchés, qui hurlent, ah, j'en peux plus. Moi, mes filles, quand elles voient ça, mais pourquoi papa, cet enfant réagit comme ça? Parce qu'en fait, personne ne communique avec lui. Personne lui pose le cadre. En fait, c'est simple, pour qu'un enfant s'épanouisse, il faut lui poser le cadre. On lui pose pas le cadre en lui tapant sur la tête.
Non, on lui pose le
cadre en lui expliquant les choses. Et c'est tellement compliqué et simple en même temps que de communiquer avec son enfant. En fait, communiquer, oui, ça prend du temps. Oui, pardon. Oh, excusez-moi. C'est vrai que dans ce monde où tout va très vite, se poser 5 minutes et discuter avec son enfant, c'est vrai qu'on n'a pas le temps.
Donc, vous privilégiez le dialogue et la fermeté, puisque vous dites, voilà, le regard, ça suffit pour faire comprendre qu'il peut y avoir, sur Joël.
Moi, je partage tout à fait ce que dit Adrien, parce que c'est ce que je fais aussi avec ma fille. Il n'empêche que je lui ai quand même mis 2 ou 3 fessées. Et il faut dire qu'on a un problème aujourd'hui avec l'éducation des garçons. Parce qu'on pense toujours qu'un garçon, ça s'élève comme une fille. Non, les garçons, ça ne s'élève pas comme une fille. Un garçon, moi je vois bien ma soeur, moi j'ai une fille.
Comment tu sais si ton garçon est une fille ou un garçon? Tu ne sais pas. C'est à lui de choisir
son
genre.
J'ai deux, trois indices.
C'est...
J'ai deux, trois indices sur lesquels je m'appuie.
Non. Alors là, c'est de la transphobie.
Oui, ah bah
c'est à lui de choisir son genre.
Non, mais continue. En attendant, je choisis pour lui. Et je vois bien, ma soeur, elle a un garçon. Et il est turbulent. Enfin, il veut se battre, des choses comme ça. Donc, les garçons sont différents des filles. Et donc, peut-être discussion. Que le cadre qu'on met aux garçons...
Les garçons sont différents des filles.
Ah oui,
un droit de correction parentale. Merci, Adrien. À bientôt. Donc, on vous sélectionnera au 32-16 que quand Joël sera là. Donc un droit de correction parentale, est-ce que c'est choquant? Oui non. Alors il y a eu des changements d'équipe entre-temps.
Nos auditeurs évidemment ils tapent leur gosse.
Alors qu'est-ce qui est privilégié? Allez, envoyez le résultat final.
Perdant, là, Charles.
Voilà, non, regarde, ce n'est pas choquant. Ouais.
Il y a quand même 26% de.
Il a été recadré par les auditeurs.
Il y a 26% exactement. De gens qui sont bienveillants avec leurs enfants. Je les salue.
RMC les grandes gueules tous les jours 9h midi.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à demain.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Zor Habitant, Antoine Dierce et Frédéric Farah. Et ce sondage assez surprenant, en cas de guerre, 57% des jeunes Français de 18 à 25 ans se disent prêts à s'engager dans l'armée. Et vous ?
RMC, les grandes gueules.
Bah oui. Selon une étude de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, donc 57% des 18-25 ans n'hésiteraient pas à s'engager dans l'armée pour protéger leur pays en cas de conflit. 62% des jeunes Français sont même favorables à l'instauration du service militaire obligatoire. Qui a dit que nos jeunes n'étaient pas patriotes? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on se posait plus. L'Europe était en paix. Alors il y a eu la guerre bien sûr en Yougoslavie, mais enfin bon, l'Europe était plutôt en paix, notamment depuis la chute du mur de Berlin. On pensait qu'on vivrait tranquillement. Et puis il y a eu l'Ukraine. Il y a ces conflits israélo-palestiniens. Bref, et donc forcément...
Les attaques terroristes hein, qui ont ramené beaucoup de
les
monde.
Attaques terroristes aussi sur notre territoire. C'est une guerre aussi qu'on nous mène de l'intérieur. Et donc ces jeunes Français se disent « Mais moi, je serais prêt à m'engager en cas de guerre. » Vous avez été surpris? Vous dites « Bravo ». Qu'est-ce que tu dis, Antoine?
Alors moi, je suis
fier.
Antoine, il est content, là.
Mais non, attendez, je suis plus que fier. Parce
toi, t'es réserviste.
Moi, au-delà
et
des
pas de
paroles...
Avec la Seconde Guerre mondiale.
Au-delà des paroles, moi, il y a les actes qui vont avec, et ça fait bientôt 2 ans que je suis membre de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Alors, j'ai un devoir de réserve, je ne vous parlerai pas de ce qu'on fait, etc. Mais j'ai aujourd'hui passé près de 150 jours sur les 2 dernières années à me former, à être prêt et à être disponible le moment venu, si on avait besoin de moi. Et donc, je pense que tous ces jeunes qui aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à le faire doivent savoir qu'on peut déjà le faire aujourd'hui, qu'on peut s'engager dans la réserve opérationnelle et donner ses week-ends, donner ses vacances pour être préparé. Et dans un monde dans le monde dans lequel on vit, bah, je pense que ma génération n'exclut plus de devoir un jour à son tour prendre les armes. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont connu cette période de paix où on avait l'impression que la paix serait éternelle. Eh bien, ma génération et les jeunes d'aujourd'hui, on sait bien que la paix n'est pas éternelle et que si on veut sauver la paix, il faut être prêt à se battre.
Zor Habitant, surpris par ce sondage?
Non, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que le patriotisme, souvent, on dit que les jeunes ne sont pas patriotes, mais il y a un besoin d'appartenance à la communauté et au collectif, finalement. parce que c'est ça que ça dit, le patriotisme, ça dit l'appartenance à son pays, et puis l'envie de l'intérêt général et du bien commun. Donc c'est plutôt rassurant, et, mais c'est marrant parce que du coup, ça, quand on parlait d'autorité tout à l'heure sur Gabriel Attal et ses propositions, on voit bien qu'il y a un décalage entre le désir des jeunes d'autorité et d'ordre qui les sauve et qui permet justement, qui leur permet d'avoir un parcours de réussite, de se projeter. Parce que quand on demande aux jeunes quels sont leurs rêves, vous serez totalement surpris. En fait, ils ont des rêves très simples. Ils veulent un travail, un toit, une maison.
Oui, c'est toujours à peu près les mêmes
rêves. C'est toujours les mêmes rêves. Ça fait 30 ans, 30, 40 ans que je suis avec des jeunes. En 40 ans, ils me disent tous la même chose. Personne ne rêve d'aller sur la Lune. Ils ont des rêves très basiques. Donc, il y a une demande d'autorité et l'État n'est pas au rendez-vous pour répondre à cette autorité à tous les niveaux, c'est-à-dire l'autorité à l'école, l'autorité en périscolaire, l'autorité au foot, etc. Donc ça veut bien dire qu'il faut que l'État, s'il y a des choix budgétaires à faire, ce que je peux comprendre, eh ben, il y a des priorités, peut-être en supprimant une cinquantaine de comités de Théodule, peut-être qu'en réduisant un certain nombre de choses qui ne sont pas très utiles parce que l'éducation est un investissement pour la nation et pour le pays et pour l'avenir du pays, eh ben, on peut couper de l'argent quelque part et puis se dire on va l'investir justement dans ce désir d'ordre et d'autorité, et ça n'empêchera pas du tout les jeunes ni de s'épanouir, ni de travailler, ni d'étudier, ni rien. Au contraire.
Alors, Frédéric Farah, moi je suis même surpris, 62% souhaiteraient le retour du service militaire
obligatoire.
C'est
incroyable.
On a fait une erreur là, en le supprimant.
Mais ça ne fait pas de mal, de toute façon, la rigueur et l'autorité.
Moi, je suis effectivement surpris de ces chiffres. Plusieurs choses dessus. Le patriotisme n'est pas un chauvinisme.
Oui.
C'est vrai. Donc on peut être patriote sans être chauvin.
On peut être patriote sans être nationaliste.
On peut être patriote sans être nationaliste, évidemment. Et on peut se rassurer puisque la République nous rappelle que la seule communauté qui doit être retenue, c'est la communauté nationale.
Tout à fait.
Et qu'il n'y en a pas d'autre et que la République reconnaît les individus et pas les communautés. Il n'y a qu'une seule qu'on reconnaît, qui est la communauté nationale. Ça, c'est le fondement de la République. Moi aussi, je suis surpris parce que là, c'est pas pour faire de la pub pour mon bouquin qui sort, hein. Mais
ça s'appelle comment?
Alors, il y a un bouquin qui
c'est bien amené.
Donc, il sort le 15 mai, qui s'appelle No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe. Et j'ai interrogé le public que je connais, c'est-à-dire des lycéens, des gens à l'université, des gens en prépa, etc. Et quand je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils attachent à l'Europe? C'est pas la paix, la démocratie, etc. J'en ai interrogé plus de 460 à cet effet, hein, et ça donne lieu à ce bouquin. C'est ce que tu disais. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment dans l'Europe, c'est ce qui est concret. C'est-à-dire, voyager, il n'y a pas de papier, on peut se projeter dans l'avenir en Europe, c'est plutôt un espace
ouvert,
une monnaie que l'on peut palper, qui est commune, parce que qu'on aille d'un pays à un autre, il y a 20 pays qui la partagent. Mais effectivement, c'est pour ça que ça me surprend, parce que j'ai vu personne parmi, alors 400 jeunes, c'est pas 2 millions de jeunes, hein, on est bien d'accord, mais je n'ai pas vu des gens qui étaient dans cette direction, service militaire, implication de ce genre, et qui veulent plus ça. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris de ça, mais on peut concilier les deux. Je crois qu'effectivement, ce qui m'a donné le sentiment, cette jeunesse que j'ai rencontrée, qui est moins politisée, mais qui davantage peut avoir des opportunités.
Comment expliquer ça? C'est quoi? C'est de théorie? C'est de la guerre en Ukraine?
C'est ce que je veux dire. Pardon, Zora. C'est pas de la recherche d'autorité. Ils y viennent pas pour trouver un truc pour eux. Ils y viennent parce qu'ils savent que dans le monde dans lequel on est, il va falloir défendre notre liberté. Et donc, tu as raison, ils sont attachés à la liberté. Mais parce qu'on est attachés à cette liberté, on est prêt à la défendre et on veut s'y préparer. Et vraiment, moi, ce que je vois dans la réserve opérationnelle, c'est des hommes, des femmes qui ont décidé que eux seraient prêts au moment où il faudra l'être.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie d'engagement? On voit que l'engagement politique, quand même, est en recul. Il n'y a plus personne dans les partis politiques.
Total.
Il n'y a quasiment plus de militants. Enfin bon.
Même dans les syndicats. Voilà.
Dans les syndicats, c'est pareil. Hein. Enfin,
dire, quand il y a un besoin d'engagement.
Quand il y a des élections syndicales, personne ne vote. Bon. Alors, il y a un besoin d'engagement aussi dans les, il y a des associations. Il y a des jeunes qui sont engagés, notamment pour l'écologie, etc. Mais je crois qu'il y a un besoin d'engagement dans cette jeunesse. Et c'est aussi une façon de dire, je veux m'engager pour autre chose que ma petite vie.
Mais dans le sondage.
Quelque chose qui est plus grand que moi.
Mais dans le sondage, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que la première cause qui préoccupe les jeunes, c'est quand même le climat. avant, avant le reste. Et ça c'est quand même important.
Je voudrais que ceux qui nous écoutent, hein, est-ce que vous seriez prêts à vous engager en cas de guerre? Est-ce que vous faites partie de ces 57% de jeunes Français prêts à s'engager en cas de guerre?
Et 57%, c'est pas assez.
Allez-y, appelez-nous au 3216.
C'est vrai.
Et 57%, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'on devrait tous être prêts à s'engager
100%
pour défendre. Mais évidemment. Mais
on devrait être au moins à 80, quoi.
Mais non, mais à 80,
ah oui, au moins, normalement.
Pardon, mais en fait, la question se posera même pas.
Il y a des pays où c'est tout le monde.
Pardon, Zora, même en cas de guerre, tous les hommes en mesure de porter des armes devront se rendre à la caserne la plus proche.
Donc c'est en Ukraine.
C'est même pas si t'as envie. Voilà, l'exemple ukrainien, c'est t'as pas le choix. Il faut sauver ta vie et sauver ton pays. Donc en fait, on est au-delà des 57% qui seraient prêts à s'engager. Oui, c'est tout le monde qui devra peut-être y aller un jour.
Je pense que dans des pays qui sont en guerre depuis 70 ou 80 ans, c'est sûr que la question se pose pas. Nous, on est censé être en paix depuis la Seconde Guerre mondiale, de pas être menacé directement d'invasion d'un pays.
Mais justement, on s'est endormi. Alors que
endormi.
Mais la Pologne, les États baltes où je vais de temps en temps. Vivent depuis des années, non pas en guerre, mais avec l'idée que l'ogre russe est à côté, que l'ours russe est à côté. Et donc, ils sont tous prêts, mentalement, un jour à se défendre. Et nous, on a vécu dans une espèce de cocon, en disant que la guerre était normal, loin, etc.
Mais
et donc, on n'est pas prêts
avec les Allemands. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un luxe, la paix, et un luxe qu'il faut
défendre.
La guerre, avant d'en parler, il faut vraiment prendre conscience ce que c'est. Je le dis très tranquillement parce que